Bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas vu ce matin. Alors ce matin, je vais vous parler du prophète Ésaïe, comme j'en ai parlé la dernière fois. Le prophète Ésaïe qui a fait une rencontre personnelle avec Dieu, qui a vu son état dans cette rencontre, dans cette présence de Dieu, il a vu son état et... Mais Dieu l'a pas condamné, n'a pas quoi que ce soit, mais il est allé à son secours et il s'est trouvé que Dieu avait un plan pour lui et il l'appelait comme prophète, non seulement pour son peuple, mais aussi pour les nations. Ésaïe n'avait pas une tâche très facile, c'était pas évident, parce qu'il fallait dénoncer les choses terrible qui se passait au sein de son peuple. C'est pas donné à tout le monde. Il était aussi face à des rois. Lui qui était aussi, on peut dire, de rang royal et qui avait une certaine facilité d'éloquence et qui nous a fait un très beau livre de 66 livres, les prophéties d'Ésaïe. Et je le remercie d'avoir eu cette possibilité de nous transmettre ça par la grâce de Dieu. Le prophète Ésaïe a la mission d'annoncer des temps difficiles, des temps troublés, donc pas de très bonnes choses, mais aussi des bonnes choses, comme la venue d'un Messie, qu'on verra dans les Écritures, qui s'appelle aussi du nom d'Emmanuel. Mais ce ne sera pas mon sujet pour aujourd'hui. Il a un ministère d'environ qui a duré à peu près 40 ans, et il est dans une période où le peuple d'Israël, de Juda, sont sous la menace d'une puissante nation qui, je peux dire, revit de ses cendres, le peuple assyrien. Pourquoi cette menace? On va le voir par la suite. Donc Ésaïe a été marqué par sa vocation dans le temple. Lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, il a vu aussi l'indignité de l'homme. Dieu est saint, trois fois saint. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est fort. Il est roi. L'homme est un être souillé par le péché, dont Dieu demande réparation. Car Dieu exige la justice dans les relations et aussi la sincérité dans le culte qui lui est dû. Dieu veut et désire, au travers du prophète Ésaïe, que nous soyons fidèles et que nous placions notre confiance en lui. Je vais vous lire quelques passages. Je ne vais pas vous lire tous les textes parce que j'ai pris donc du chapitre 2 au chapitre 12. J'ai pris cette partie-là où le prophète Ésaïe, bien sûr, il parle d'un Messie qui doit venir, mais avant tout, il pointe le doigt sur le péché, sur un péché, le péché de son peuple, et sur plusieurs chapitres, ce péché est mentionné. Il s'agit de l'orgueil. Donc dans un des passages, au chapitre 2 par exemple, je vais prendre à partir du verset 6, « Car tu as abandonné ton peuple » la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie, comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ces jours-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre toutes les plaies, et contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Dans un autre passage, si, au chapitre 3, juste le verset 16, l'Éternel dit « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effronté. » Et on a aussi au chapitre 10 où Ésaïe s'adresse aussi aux ennemis d'Israël et en particulier à l'Assyrie, aux Assyriens, où il dit « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. » Je passe au verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur des richesses des peuples, sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas de bois. On dirait, on fait penser à Harry Potter. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence, sa magnificence éclatera comme un embrasement. Et c'est l'embrasement d'un feu. Point. Bon, j'arrête là. Et tout au long de ces chapitres, c'est ce qui va revenir, l'orgueil. L'orgueil de son peuple, mais aussi l'orgueil de l'ennemi qu'il a envoyé contre son peuple pour le punir de cet orgueil et de les ramener à l'humilité. Ésaïe, c'est le prophète de la foi. Il dénonce l'orgueil humain défini comme la confiance en soi. Je suis capable de résoudre tous mes problèmes. Que le Seigneur nous garde d'avoir des propos comme ça. Celui qui s'appuie sur l'homme va droit dans le mur et court à sa perte. Je pense que l'antidote contre l'orgueil, c'est la foi. Dans l'humilité. Et dans les crises graves que traverse sa nation, Ésaïe demande qu'on se confie en Dieu et en Dieu seul. C'est l'unique chance de salut. Il sait que l'épreuve sera dure, mais il espère qu'un reste sera épargné et que la venue du Messie annoncé en sera le roi. Ésaïe nous donne une image de l'orgueil, c'est comme un grand arbre, comme des montagnes, comme des tours élevées. Un grand arbre, comme l'arbre, le cèdre du Liban, grand, élevé, comme une image de l'orgueil. Mais un jour, cet arbre sera abattu. L'orgueil et l'humilité sont deux sujets que l'on retrouve fréquemment côte à côte dans la parole de Dieu. C'est comme, je dirais, comme deux ennemis inséparables, l'orgueil et l'humilité. Souvent, on pense que l'orgueil touche surtout les non-chrétiens. C'est eux, ceux qui sont dehors, qui sont orgueilleux. Parce que nous, on pense parfois que nous sommes meilleurs qu'eux. Parce que nous sommes chrétiens, parce que nous détenons la vérité. L'orgueil produit tout ce qu'il faut pour faire de notre vie un échec. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et verset 18, il est dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. S'il n'y a pas de repentance remplie d'humilité, c'est la mort assurée. Je vais vous raconter une histoire un peu imaginaire, mais pour vous donner une image de cette chute. Il y avait deux oiseaux migrateurs qui étaient copains-copains avec une tortue depuis un bon moment déjà. Et un jour, ces oiseaux migrateurs, ils ont dit, ça y est, il commence à faire froid, maintenant c'est le moment pour nous d'aller bouger et d'aller migrer ailleurs. Du coup, ils ont commencé à dire à la tortue, bon courage, hein, bonne continuation, hein, nous on doit aller là où il fait chaud maintenant. Hein. Et du coup, la tortue a commencé à devenir triste, et puis il s'est dit, attendez, c'est pas possible, je peux pas rester là, tout seul, vous allez me laisser et tout. Mais comment tu veux qu'on fasse? Tu peux pas voler, toi, comme nous. Et la tortue, elle a dit, mais écoutez, j'ai une bonne idée, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre un bâton, vous allez tenir de chaque côté, et moi, comme j'ai une mâchoire très puissante, je vais m'accrocher au bâton, et comme ça, je partirai avec vous. Alors les oiseaux ont dit, mais tu es sûr que tu vas pouvoir tenir et tout? Oh, pas de problème, je vais pouvoir tenir. J'ai de la force. Et du coup, ils ont pris un bâton, la tortue s'est agrippée, avec sa bouche là, et hop, ils se sont envolés. Et puis, ils ont fait des kilomètres, ça tenait toujours. Et à un moment donné, il y a des fermiers qui voyaient passer ça, là. Ils voyaient passer, ils se disent, oh, qu'est-ce que c'est incroyable! Mais qui a eu cette idée? Et la tortue qui fait, c'est moi! Et oup! Elle a chuté. Dans l'ensemble des chapitres, dans l'ensemble de ces chapitres, donc, Ésaïe dénonce l'orgueil, donc pas seulement celui de son peuple, mais aussi des hommes en général. Dans le livre de Jacques, il nous est dit ceci, « Dieu résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu résiste à quelqu'un, il est impossible de le contourner. » On peut faire ce qu'on veut, on peut monter, descendre, aller à droite, appeler machin, appeler bidule, mais si Dieu te résiste, tu peux pas contourner ça. On ne peut rien faire quand Dieu nous résiste. Dieu ne veut pas que l'orgueil reste dans notre vie, donc il fera tout. Il mettra tout en place pour retirer cela de ta vie. Le Seigneur nous montre que dans nos vies, il y a des racines, la racine de l'orgueil ou les racines de l'orgueil dans nos vies. Et nous ne voulons plus qu'il y ait une seule racine, notre désir, c'est qu'il n'y ait plus une seule racine d'orgueil dans notre vie. Nous désirons être comme lui, comme le Seigneur, pour faire son œuvre, pour faire ce qu'il veut. Il est important que nous puissions prendre conscience de ce péché, l'orgueil, dans notre vie. L'orgueil nous fait fuir la réalité et la vérité sur nous-mêmes. Le but du Seigneur est de nous rendre semblables à lui. Je suis doux et humble de cœur. Dans le livre du Deutéronome, l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, sera puni de mort. Ah, c'est terrible. Radical. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dans le livre du Deutéronome. Celui qui refuse d'écouter Dieu est animé par l'orgueil Et il dit, l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas. Par orgueil. L'orgueil peut nous amener à des situations compliquées. Elle peut nous rendre sourds. Celui qui agit par orgueil refuse d'écouter Dieu. Dans le livre des psaumes, on peut lire aussi ceci. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Toute réaction de domination est une réaction d'orgueil. Et c'est par orgueil que beaucoup de dictateurs ou de, c'est quoi encore, de gens, d'hommes, de femmes, par orgueil, qu'ils dominent, qu'ils veulent, qu'ils désirent dominer, c'est l'orgueil qui les pousse à ça. Dans les psaumes aussi, on peut retrouver ceci, Asaph, qui regarde ceux qui sont dans le monde autour de lui, il dit ceci, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Toute action de violence, de dureté, est poussée par l'orgueil. J'ai parfois, moi-même, des réactions agressives, mais est-ce que j'ai pris, ou est-ce que j'ai compris que c'est l'orgueil qui m'y pousse parfois? Il est important que je me repente de mes réactions agressives, mais aussi que je prenne conscience qu'il faut aussi que je me débarrasse de l'orgueil. Dans les psaumes, on voit aussi ceci. Des orgueilleux me chargent de raillerie. La moquerie est une réaction nourrie par l'orgueil. Celui qui est humble peut avoir de l'humour, mais sans la moindre moquerie. Et je dirais même l'humour, c'est se moquer, on va dire, d'une certaine situation où on est soi-même dedans. C'est-à-dire, je ne me prends pas au sérieux. Mais l'orgueil se moque des autres et le ton est moqueur et méprisant. Dans les psaumes, toujours, on trouve « Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. » Quand nous imaginons des choses qui sont fausses contre quelqu'un, contre un frère ou une sœur, c'est l'orgueil qui nous pousse à le faire. L'orgueil a une puissance tellement grande dans le péché qu'il y a des ramifications. Tous les péchés ont comme source l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché originel. C'est le péché, c'est le, voilà. C'est de là que découle tous les autres. C'est le premier qui a été pris d'orgueil, c'est Satan lui-même qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est par orgueil, et c'est à cause de son orgueil qu'il est tombé, qu'il a fait une chute vertigineuse jusqu'à atterrir sur la terre. Et de là ont découlé tout le reste. L'orgueil peut nous pousser à mentir. L'orgueil peut nous pousser à convoiter l'orgueil. Quand nous imaginons des choses qui sont fausses contre quelqu'un, contre un frère, une sœur, c'est l'orgueil qui nous pousse à le faire. L'orgueil a une puissance tellement grande dans le péché qu'il y a des ramifications. Tous les péchés ont comme source l'orgueil. Tous les procès d'intention, ce que nous pouvons imaginer envers une personne et qui sont fausses, et qui n'ont jamais été prouvés en quoi que ce soit, que je n'ai même pas vu, les cancans, les calomnies, etc. Tout ce qu'on rapporte et qui est faux, tout cela est causé par l'orgueil. Toujours dans les psaumes, on peut lire aussi ceci, « Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause, sans cause. » L'oppression, plus fort que la violence. L'orgueil opprime sans cause. Les grands de ce monde dominent sur ceux qu'ils contrôlent, qu'ils oppressent, les tyrans, les dictateurs. sont au summum de l'orgueil. Quand l'oppression ne se trouve pas, quand l'oppression ne se trouve pas chez eux, on prie, on espère que l'oppression ne se trouve pas dans nos foyers, dans notre église, dans nos maisons. Il y a des oppressions qui sont subtiles, très subtiles, et qui mettent un fardeau sur les autres, alors qu'il n'y a pas de violence visible. Un exemple, quand on met quelqu'un sous un esprit de culpabilité, quand on fait la tête à quelqu'un, quand on veut lui faire plier le genou, quand on boude pendant des jours, alors là, nous sommes en train de mettre une pression, une oppression sur la personne, et tout cela découle de l'orgueil. L'inverse, l'humilité, va nous amener à pardonner et à reconnaître nos torts. Toujours dans les livres des psaumes, on peut lire « L'orgueil va plus loin. Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. » L'orgueil nous pousse à creuser une fosse devant l'innocent pour que l'innocent tombe dans cette fosse et ne s'en relève plus. Dans le livre des Proverbes, on lit aussi ceci. « L'orgueilleux excite les querelles. » L'orgueilleux excite les querelles dans les familles et dans l'église. L'orgueil nous pousse parfois à des querelles. L'orgueil m'empêche d'atteindre le but par ce que je veux faire, parce que je veux en faire qu'à ma tête. L'orgueil me dit, ne te contente pas de ce que tu as, tu mérites beaucoup mieux. L'orgueil me dit, ça sert à rien que tu apprennes des choses, parce que de toute façon, tu connais tout. L'orgueil me prive de guérison parce que je suis trop aveuglé pour pardonner. L'orgueil me prive de sainteté parce que je refuse d'avouer mes torts. Elle me prive aussi de vision parce que au lieu de regarder vers l'extérieur, je préfère me regarder dans le miroir. Miroir, miroir, dis-moi, qui est le plus beau ? L'orgueil me prive d'amitié, mais d'amitié sincère, car elle m'empêche de montrer le vrai moi, ce que je suis vraiment. L'orgueil me prive d'amour, car l'amour implique le sacrifice. L'orgueil me prive de la grandeur au ciel, parce que je refuse de servir Dieu sur terre. L'orgueil me prive de la gloire de Dieu en me convainquant de chercher la mienne. Et souvent, on peut croire que l'orgueil va prendre soin de nous. En fait, l'orgueil veut me ridiculiser. L'orgueil murmure à mon oreille. Tu sais, Dieu a beaucoup de choses en réserve pour toi. C'est sûr et certain. Mais ne t'inquiète pas, si tu restes avec moi, tu ne le sauras jamais. L'orgueil n'est pas un bon compagnon. Je vais finir avec trois versets qui nous parlent de l'humilité, et il y en a des versets qui nous parlent de l'humilité, il y en a tellement. Juste trois comme ça que j'ai pris, peut-être que vous en connaissez d'autres. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, la vie. L'humilité, là, dans ce verset, sont mis côte à côte avec la crainte de l'Éternel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je trouve qu'Ésaïe nous a pointé du doigt le péché de son peuple. Mais le monde, comme on le sait, ne change pas et demeure le même. L'histoire, on a l'impression des fois que l'histoire se répète. Je ne crois pas que ce soit une impression. Mais voilà, je remercie vraiment Ésaïe pour ce passage. La prochaine fois, je continuerai encore sur Ésaïe. Je pense que je vous parlerai de ce Messie dont il nous parle. Je vous remercie de m'avoir écouté, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse à chacun.